demander de lire quelques textes. Ça s'est bien passé. Oui, il y avait une bonne communion quand même. Vous n'êtes pas battu pour lire. Il y a plusieurs questions en suspens. On a dit qu'on les prenait après. Hein. Alors, on va commencer, et plutôt que par le chapitre 50 de Corinthiens, de prendre la première aux Thessaloniciens. Vous voyez, je me tiens devant le Seigneur, je réfléchis, je prie, et puis j'ai pensé tout à coup. La première épître aux Thessaloniciens, c'est la première lettre que Paul a écrite. Hein, de toutes les lettres, c'est pas les Romains, la première lettre. La première lettre de l'apôtre Paul, c'est l'épître aux Thessaloniciens. Et c'est dans cette épître qu'il leur parle tout de suite du retour du Seigneur, de la venue du Seigneur. Donc, pour l'apôtre Paul, c'était une vérité importante. Aujourd'hui, on nous dit, oh, mais c'est pas tellement important, il suffit d'être sauvé, si on est sauvé, ça va bien, on n'ira pas en enfer, c'est tout ce qu'on a peur. Hein. Même si on avait vécu en hiver ici très froid. C'est pourvu qu'on soit sauvé. C'est ça qui est important. Non, c'était pas ce que pensait l'apôtre Paul. Et la première fois qu'il est allé à Thessalonique, il était avec Sylvain et Timothée. Il n'est resté que 3 semaines. Ce qui fait 3 prédications de sabbat, donc il n'avait pas beaucoup de temps, c'était pas une longue fin de semaine, et il a réussi à leur dire dans sa première épître des vérités extraordinaires au sujet du retour du Seigneur. Et nous ne voulons pas commencer tout de suite par le chapitre 4, parce qu'il faut situer ce chapitre. Il est donc dans la première épître aux Thessaloniciens, et cette épître, l'apôtre Paul l'envoie après son passage de 3 semaines. Il a dû quitter de nuit brutalement Thessalonique parce que les Juifs fomentaient toute une persécution. Mais il avait réussi à dire à ces Thessaloniciens qu'ils étaient réellement convertis à Dieu. J'aime beaucoup ce premier chapitre où il parle au nom de Sylvain et de Timothée aux Thessaloniciens qu'il appelle des gens qui sont en Dieu. Est-ce que vous êtes conscient ce soir d'être des gens qui sont en Dieu? Est-ce que vous êtes conscient que demain matin, vous repartirez comme des gens qui sont en Dieu et que ceux que vous rencontrerez verront que vous êtes des gens qui sont en Dieu, non pas qui reviennent d'une retraite, mais qui sont en Dieu le Père. Rendez-vous compte, hein, à ceux qui sont en Dieu le Père. Est-ce que notre Église est en Dieu le Père? Et en Jésus-Christ, le Seigneur. Donc, s'il est le Seigneur, c'est lui qui dirige tout. Et qu'est-ce qu'il leur souhaite? Que la grâce et la paix vous soient données. J'étais encouragé parce que c'est toujours un grand exercice pour moi de mettre un texte biblique au tableau. Et c'est avec beaucoup de prières que j'avais mis ce texte, que votre cœur ne se soit pas troublé. Et une âme m'a dit que quand elle est entrée, c'est la première chose qu'elle a ressentie. Elle venait peut-être avec un certain trouble, et puis tout à coup, elle n'a pas pris cela de moi. C'est du Seigneur, parce que c'est une parole du Seigneur. C'est pourquoi j'aime ici, où soyez bien accueillis, non pas par moi, mais par le Seigneur. Nous sommes accueillis par le Seigneur. Eh bien, que votre âme ne soit pas troublée. Mettons, quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que le Seigneur lui-même, est-ce qu'il a parlé vraiment de nous prendre près de lui, de nous enlever? Mais je me suis dit, la chère amie qui m'a dit ça, que j'aime beaucoup, qui m'est très chère, eh bien, elle n'a pas lu le texte. Parce que le texte, qu'est-ce qu'il dit? Qui c'est qui a écrit ça? C'est l'apôtre Jean. Mais qu'est-ce qu'il transmettait? Les paroles de Jésus, au chapitre 14, ils allaient prendre le souper, et pendant le souper, ils les voient pris, ils sont tellement préoccupés eux-mêmes et d'eux-mêmes, au col s'est levé pour laver les pieds des croyants, c'est Jésus qui a dû se lever de table, il leur a lavé les pieds, et c'est après qu'il leur dit. Il les voit vraiment désarçonnés dans le couple. Que votre cœur ne soit pas troublé. C'est beau, hein? Donc on a commencé avec ces paroles. Et puis maintenant, dans la première épître aux Thessaloniciens, il leur disait, dans le premier chapitre, de sa première lettre qu'il a écrite à une église, à l'église qui est en Dieu. J'aime beaucoup. En Dieu le Père. Quand une église est en Dieu le Père, on est heureux. Parce qu'on est les enfants du même Père. Et en Jésus-Christ, le Seigneur, celui qui a vaincu toutes les tentations, qui a supporté toutes les souffrances, qui a été crucifié, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui est le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il leur souhaite? La grâce et la paix, qu'elle vous soit donnée. Et j'ai demandé à Dieu tout à l'heure que vraiment vous receviez, qui que vous soyez, la grâce et la paix. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières. Donc vous voyez, on apprend que quelqu'un est malade, qu'il soit à l'hôpital ou ailleurs, eh bien, nous avons pu faire mention de cet ami-là dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Et Josapha nous rappelait l'œuvre de sa foi. Il est venu travailler au camp de Cedar Lodge pour nous aider à construire ces baraques, ces maisons. L'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance. Vous remarquez que les trois vertus chrétiennes animaient ces Thessaloniciens, parmi lesquels l'apôtre Paul n'avait passé que trois jours. Il y avait la foi, il y avait l'amour, et il y avait l'espérance. Et vous trouvez toujours ça dans les épîtres de Paul. Au début, la foi, l'espérance et l'amour. Les trois vertus chrétiennes doivent caractériser une assemblée, une église. Et cela, c'est devant Dieu notre Père. Il n'y a pas d'hypocrisie. La foi, l'espérance et l'amour sont manifestes devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés, que Dieu vous a élu, que vous avez été élu, nous le savons. Vous voyez, il n'a pas de doute, il ne se dit pas, ouais, est-ce que c'est des vraies conversions, pas des vraies conversions, est-ce que j'ai été trop vite dans mes appels, etc., ou bien, est-ce que j'aurais dû me prendre autrement, mais non, on est dans la main de Dieu pour nous laisser employer par lui. Les résultats, s'il y en a, ce sont les nôtres, c'est notre capacité, non, les résultats sont au Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de faire la comptabilité. Là, parce que, vous savez, on fait des additions faciles sur la terre, puis il y aura des drôles de soustraction dans la vie. Non, non, il faut faire attention. S'il y a des âmes sauvées, c'est le Seigneur qui les a sauvées. C'est pas notre propagande religieuse qui compte que nous avons eu du succès. Est-ce que le Seigneur a vraiment eu du succès selon le monde? Non, il n'en a pas eu. Puis moi, j'en voudrais. Je ne suis pas dans la voie du Seigneur. Alors. Mais Paul écrit que notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement. Vous voyez, il y avait quelque chose qui différenciait Paul de certains prédicateurs. C'était pas, on sentait que c'était pas simplement des paroles, mais c'était tout son être qui parlait et qui vivait, qui transmettait ce message. Ce n'est pas seulement en parole, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint, et avec une pleine persuasion. Ce n'est pas un théologien qui dit, on nous dit, notre maître nous a appris que, n'est-ce pas, toujours des doutes. On n'a rien comme certitude. On ne peut pas prêcher des certitudes si on n'a pas une révélation. Eh bien, Paul a eu une révélation. Et c'est avec une pleine persuasion qu'il a pu leur prêcher. Et vous savez, ça sent si on est persuadé. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Je trouve ça tellement merveilleux. Paul peut rendre ce témoignage qu'après 3 semaines, il y a eu des gens qui se sont convertis et qui sont devenus des imitateurs de Paul et du Seigneur. Parce que ce que Paul imitait, c'était le Seigneur. Alors, ceux qui voulaient imiter Paul, qu'est-ce qu'ils imitaient? Le Seigneur. En recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la richesse des persécutions, non, avec la joie du Saint-Esprit, ça va ensemble. C'est normal, dans un tel monde de pernicieux, eh bien, c'est avec les afflictions nous donnent de la joie, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. C'était plus des gens qui cherchaient un modèle. Tandis que dans les églises, aujourd'hui, on cherche des modèles. On n'est pas même imitateur de Paul, on est imitateur de Dieu, mais on regarde les hommes, puis nos frères, et on cherche un modèle. Alors qu'on devrait être un modèle. Ne cherchez plus de modèle, mais devenez un modèle. Vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine. Vous voyez comme les nouvelles se rapportent rapidement pour tous les croyants de Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière qu'on n'a pas même besoin d'en parler. Tout ça, c'est merveilleux. Il y a 3 choses qui les caractérisaient, donc. Ils étaient devenus imitateurs de Dieu dans ce peu de temps que Paul a passé parmi eux. Ils sont devenus des modèles dans l'Église, cessant de chercher des modèles. Et puis, ils sont devenus des témoins. Des témoins dans le monde, leur foi envers Dieu s'était connaître entre nous. On n'avait pas même besoin d'en parler. C'est le monde qui parlait. Et pour moi, c'est ça qui compte. C'est le monde qui doit rendre témoignage aux chrétiens. Ça, c'est des chrétiens. C'est ça, le témoignage. Tandis d'entendre un long témoignage qui n'en finit pas, peut-être, sur ce qu'on a été, sur ce qu'on a fait avant notre conversion, puis maintenant, depuis qu'on est devenu évangélique, c'est tellement merveilleux que on va combattre pour le Seigneur avec une grande épée, tout ce que vous voulez. Que le Seigneur a interdit, justement, celui qui frappera par l'épée, qui rira par l'épée. Alors, vous voyez, imitateur de Dieu. Nous n'avons pas même besoin d'en parler. Verset 9, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment, qu'est-ce qui s'était passé? C'est une vraie conversion. Comment vous vous êtes converti à qui? À Dieu. En abandonnant les idoles, donc c'était des idolâtres, pour servir le Dieu vivant et vrai, c'était ça leur école biblique, servir le Dieu vivant et vrai. Et ils avaient été mis en contact avec un Dieu vivant, le meilleur des maîtres, le meilleur des professeurs, avec le Dieu vivant est vrai. Et pour attendre, et c'est sur ce mot-là que je voulais insister, pour attendre, ton fils, et au plus premier c'est ton fils, qu'il a ressuscité des morts. Donc ils ont un sauveur vivant, ils croient à la résurrection de Jésus, et il ajoute qui nous délivre ou qui nous amène vers la colère à venir. Tu ne peux pas enlever les mots qui nous délivrent de la colère à venir. Alors, si je vous dis que je crois que l'Église sera délivrée de la colère à venir, c'est parce que je m'appuie sur cette parole. Mais pas seulement sur cette parole, mais sur d'autres qui correspondent à cette promesse. Mais vous devez bien souligner cela. La première lettre que Paul a écrite, et il a dit à la première église, là, qui était fondée à Thessalonique, que Jésus les avait sauvés pour qu'ils le servent, mais qu'il les délivrerait de la colère à venir. Alors, qu'est-ce qui vient sur le monde? La colère. Et si vous regardez un peu ce qui se passe, c'est bien ça. Hein. La colère de Dieu vient sur ce monde. Et s'il y a eu un homme qui a eu peur de la colère de Dieu, c'est bien Moïse, parce qu'il a vu ce que c'était que la colère de Dieu quand il a commencé sa vie avec l'Éternel, et qu'il a voulu contester avec l'Éternel, qu'il ne voulait plus aller. À 80 ans, à 40 ans, il voulait aller délivrer son peuple. Quand le Seigneur attend qu'il ait 80 ans pour l'appeler, il n'est plus d'accord. Hein. Et il conteste, il envoie qui tu voudras. Et le Seigneur se met en colère contre lui. Et il a su ce que c'était que la colère. Alors, sachant ce que c'était que la colère pour lui-même, il a peur de cette colère pour le peuple. C'est pourquoi il devient un intercesseur pour que ce peuple d'Israël ne connaisse pas la colère de Dieu. Oh, que vous soyez préservés de la colère de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Alors, c'est là, c'est comme ça que commence cette épître que je vous ai demandé de lire. Et dans chaque chapitre, il y a un texte qui parle du retour du Seigneur. Mais voilà, il leur avait dit que Jésus revenait bientôt, parce qu'il l'attendait pour lui-même dans sa propre vie. Et puis tout à coup, il apprend que les pauvres Thessaloniciens étaient très troublés et très attristés, parce que le Seigneur ne venait pas immédiatement comme il l'avait cru, et parmi eux, des vrais croyants, des convertis, mouraient. Et alors, ils étaient dans une tristesse immense parce qu'ils pensaient que ces gens qui mouraient parmi eux, qui faisaient partie de l'église de Thessalonique, manqueraient quelque chose. Ils étaient donc défavorisés. Et c'était pour eux une grande souffrance. Alors, quand Paul apprend cela, que ces personnes auxquelles il a enseigné le retour imminent, en quelque sorte, du Seigneur, étaient déçus et attendaient, ils ne niaient pas que Jésus revenait, mais ils étaient pris pour les morts en Christ, pour ceux qui étaient morts dans la foi. Ils pensaient qu'ils allaient manquer quelque chose. Et c'est alors qu'il leur écrit cette lettre, qui est remplie de vérité concernant le retour de Christ. Et c'est là qu'au chapitre 4, je vous ai demandé de lire au verset 13, il commence en disant, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux Darby, traduit littéralement, dit de ceux qui dorment. Parce que pour le chrétien, la mort est considérée comme un sommeil. Le sommeil est un acte, on s'endort, puis la mort devient un état, on est mort. Mais d'abord, on s'endort. Le passage de notre vie à la mort, eh bien, est appelé un sommeil. On s'endort dans le Seigneur. Le corps, bien sûr, retourne à la terre, mais ce n'est pas le sommeil de l'âme. L'esprit qui anime l'âme retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'âme est dans la jouissance du Seigneur. Parce que le Seigneur n'aurait jamais dit à Paul, qui nous l'a répété, qu'être auprès du Christ, c'est de beaucoup de meilleur. Si c'était son sommeil, il n'aurait jamais dit au brigand, en vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Voilà, quand vous me demandez, mais comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est avec lui? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui l'a dit au brigand, avec, tu seras avec moi dans le paradis. Et si vous relisez le texte que Jean nous a confié, vous voyez que ce que le Seigneur veut, c'est de nous prendre auprès de lui. Alors, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance quant aux gens décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Qui sont les gens qui n'ont pas d'espérance? Puisque maintenant vous connaissez bien le sens du mot espérance, c'est Jésus. C'est une personne, l'espérance. Comme ceux qui n'ont pas Jésus. Vous ne soyez pas comme ceux qui n'ont point d'espérance, qui n'ont pas Jésus vivant. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, est-ce que vous le croyez? Bon. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux avec Jésus, par Jésus, et avec lui ceux qui sont décédés. Donc, il aura dû les ressusciter, puisque quand il reviendra, il est dit qu'il ramènera avec lui. C'est moi qui l'invente? Notez bien les mots, hein. Car si vous croyez que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus. Donc, qui est-ce qui va agir à ce moment-là? Un archange seulement? Non, Jésus lui-même. Par Jésus, qui est lui-même, quoi? La résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Nous rejoignons la retraite précédente. Hein. Il dit à Marc, que tu crois que je suis la résurrection. C'est pas la résurrection au dernier jour dont il est question ici. Il est question que Dieu ramènera par Jésus et avec lui, donc Jésus ne sera pas tout seul, c'est ce qu'il aura autour de lui, tous les décédés. Quel cortège, hein. Mais n'ayez pas peur, ce sont les décédés en Christ, tous ceux qui sont morts en Christ, tous ceux qui sont endormis en Jésus comme Étienne. Il ramènera avec lui tous ceux qui sont décédés. Et alors il ajoute, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après nos bonnes idées, ou d'après les théories de telle église. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Donc, vous pouvez trouver les paroles du Seigneur autant dans les épîtres que dans les évangiles. C'est toujours les paroles du Seigneur. Nous les vivants. Vous êtes vivants? Ça vous concerne aujourd'hui. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Est-ce qu'il y aura des vivants à l'avènement du Seigneur? Oui, c'est clair. Les enfants peuvent comprendre ça. Nous, les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Nous n'aurons pas d'avantage sur les morts en Christ. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Alors, nous devrions peut-être chercher à être prêts pour entendre le signal. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il y a trois choses. Il y a le signal donné, Il y a la voix de l'archange, il y a le son de la trompette de Dieu. C'est pour ça que je vous mets en garde contre certains bouquins qui laissent travailler leur imagination et qui vous font la description de l'enlèvement des croyants avec des catastrophes incroyables. Vous êtes à un feu rouge, vous allez passer un feu rouge, voilà le Seigneur qui vous enlève. Et puis l'auto, votre auto s'en va tout seul contre les autres. Ça fait des catastrophes, des embouteillages terribles dans les villes, et puis des histoires d'avions aussi qui tombent, parce que le pilote a été enlevé. Laissez votre imagination dans la poubelle, et prenez votre Bible, et n'ajoutez rien à ce que la Bible dit. Et vous serez tranquille. Le Seigneur lui-même, c'est un Dieu d'ordre. Un signal donné. Tu auras le temps d'arrêter ta voiture. À la voix d'un archange, tu seras soutenu par une puissance angélique. Au son de la trompette de Dieu, on sera dirigé. Descendra du ciel. Mais il n'est pas dit jusqu'où il descendra du ciel. Hein. Il n'est pas dit qu'il viendra sur la terre. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc l'ordre est bien donné. Dieu est un Dieu d'ordre. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, parce qu'il y en a qui restent jusqu'à la venue du Seigneur, nous serons tous ensemble. Quoi? Enlevés. Et voyez-vous, ce qui m'a amené à vous proposer ce titre à la fin de l'année, c'est que j'avais été très impressionné par cette parole de Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter, et j'avais lu dans les nombres que ceux qui s'étaient révoltés contre Moïse, les cousins de Moïse, qui étaient Corée, Dathan et Abiram, qu'est-ce qu'il leur est arrivé de nouveau? En un instant, en un clin d'œil, la terre s'est ouverte. Et Moïse leur avait dit, s'il meurt de la mort de tout le monde, Dieu ne m'a pas envoyé. Mais s'il arrive quelque chose que vous n'avez jamais vu, hein, des gens entrés vivants dans le tombeau, hein, dans la terre, eh bien, c'est que le Seigneur a décidé que c'était bien nous et qui étions à son service. Et moi, j'ai pensé à ceci. Un jour, la terre s'est ouverte pour engloutir qui? Les révoltés. Et quand on est au Seigneur, on n'attend pas la fosse. On n'attend pas qu'une fosse soit ouverte pour nous. Qu'est-ce qu'on attend? Que les cieux s'ouvrent. Et c'est pourquoi j'ai terminé ces conférences en vous proposant les cieux ouverts, un événement inédit, un événement qu'on n'a jamais vu vraiment dans un tel ensemble. On a vu Enoch, oui, si on l'a vu, et Élie, on sait qu'il y en a un au moins qui l'a vu et qui a témoigné, c'est Élisée, n'est-ce pas, qui l'a vu partir. Mais on voit maintenant au Cap Canaveral et ailleurs des fusées qui s'en vont, mais on n'a pas encore vu tous ces croyants qui disparaissent soudainement au même moment sur toute la planète. Ils sont enlevés, le ciel s'ouvre, ils sont enlevés auprès du Seigneur. Avec les morts ressuscités, donc sur les nuées du ciel, ensuite, verset 13, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. C'est pas moi qui le dis, hein. Et alors, vous allez rester dans les airs? Et qu'est-ce qu'il est ajouté? Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce qu'il a dit à son Père? J'ai juste cité ce matin. Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, que là, où moi je suis, quand ce verset se réalisera, eh bien, ce sera correspondant à celui-là, nous serons avec le Seigneur dans les airs. Mais est-ce qu'il va nous garder dans les airs? Non. Il nous conduira où? Dans la maison du Père, c'est ce qu'il nous a dit. nous savons où nous allons. Gagarine, il n'a pas trouvé la maison du Père. Il a dit, j'ai pas vu Dieu, c'était partout, j'ai pas rencontré Dieu. Parce qu'il y a les cieux, dont un jour on parlera peut-être, hein, qui sont au-dessus de tout. Mais pour aller dans les cieux, il faut un scaphandre spécial, qui n'a pas encore été inventé, et que seuls les croyants auront reçu, et reçu gratuitement. En un clin d'œil, nous serons changés. Et nos corps de chair revêtiront un corps glorieux. Il y aura cette transformation. Et c'est avec un corps glorieux qui est dégagé de la loi de la pesanteur que nous en irons à la suite du Seigneur qui nous mènera où? À Toronto? Non, mes amis. Il nous amènera dans la maison du Père. Le chapitre 24 de Marc, le psaume 24 se réalisera. Levez-vous, portails éternels, élevez vos têtes. Le roi de gloire entrera et il entrera avec tous les siens, ceux de sa maison. Alors, voilà ce que Paul leur dit. Dans sa première lettre, c'est pour ça que j'ai commencé par là. Consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Mais on se dit, oui, mais tout ça, c'est bien beau, il dit ça, mais comment est-ce que ça va se faire? Alors, on revient en arrière, hein, puisqu'on a un dictionnaire, la Bible, vous venez en arrière. Et moi, j'aime mieux que vous ne preniez pas trop de livres avec vous pour chercher, parce que je ne vous demande pas tellement de chercher. Je voudrais que vous puissiez trouver dans l'Écriture, chapitre 15 de la première aux Corinthiens, qui est le chapitre de la résurrection, ce qui peut nous aider beaucoup dans la mémorisation de la Bible, c'est de lire les chapitres, d'essayer de les résumer et de mettre un titre. C'est pour l'évangile de Jean, pour d'autres livres. On met seulement un titre pour tous les proverbes. J'ai mis un titre qui parle du Seigneur. Et en me souvenant de ces titres, je sais ce qu'il y a dans le chapitre. Alors, chapitre 16 des Corinthiens, chapitre 15 des Corinthiens, c'est la résurrection. Je lis pas tout ce chapitre, il est tard, verset 51. Chapitre 15, vous y êtes? Mais j'ai répété le verset 50. Hein. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, qui est-ce qui a fait de chair et de sang? Nous les vivants, hein, ne peuvent hériter du royaume de Dieu. On ne peut pas entrer là comme ça, avec notre chair et notre sang. Et que la corruption, qu'est-ce que c'est la corruption? C'est les morts en Christ. Leur corps est devenu corruption. La corruption n'hérite pas d'incorruptibilité. Alors, à cause de cette loi, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, que la corruption n'hérite pas d'incorruptibilité, qu'est-ce qu'il faut? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Oui ou non? C'est lui qui l'a dit? Alors, il y en a qui disent, il est dit, ailleurs, dans les Hébreux, il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. Si vous fixez seulement votre attention sur ce verset, vous allez tomber dans l'erreur. C'est pour ça qu'il faut mettre tous les versets ensemble. Nous ne mourrons pas tous. Mais qu'est-ce qui se passera? Nous serons tous changés. Quel malheur me trouvait si beau. C'est comme ça que vous êtes? Il n'y a pas de joie en pensant au retour du Seigneur? Hein, Pierre, hein, on s'en réjouit. Tout à coup, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés, pas sur la table d'opération. En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront. Donc, vous retrouvez la trompette dont nous avons déjà parlé dans dans les Thessaloniciens, et les morts ressusciteront incorruptibles des corps glorieux, des corps semblables à celui du Seigneur ressuscité. Et nous, nous serons changés, nous ne serons plus soumis aux lois de la matière. Vous vous souvenez que Jésus ressuscité pouvait entrer dans une chambre fermée. Il n'y a pas besoin d'entrer dans, par la porte. On n'est plus soumis aux lois de la matière quand on a le corps de gloire. Donc c'est un vrai corps. Nous aurons réellement un corps, mais qui n'est plus soumis aux lois de la matière. Les pages sont d'elles-mêmes. Prenez, je retourne mon chapitre 50, hein. Chapitre 15. Verset, oui, c'est le verset 50. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ seront ressuscités. Car il faut, vous voyez le verset 23. Donc, comme Jésus disait, il faut qu'il meure, il fallait qu'il meure. Pour nous, il faut, c'est une nécessité, que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce mortel, c'est nous sommes mortels, les morts sont ceux qui sont nommés corruptibles, revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. C'est ce que ça veut dire. Il y a une résurrection. C'est pas toutes les résurrections. Il y a une résurrection. On a parlé de la résurrection dans une autre séance. La mort a été engloutie en victoire. Ô mort, où est ta victoire? On verra les ressuscités. Ô mort, où est ton aiguillon? Et l'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Il n'est plus là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a pris nos péchés. Donc, c'est seulement la résurrection des justes, des croyants. Parce que l'aiguillon de la mort étant le péché, ceux qui sont morts dans le péché, sans avoir cru au Seigneur Jésus, reste dans la mort. Et je pourrais vous citer le verset, le reste des morts ne vécut pas jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Donc, c'est une résurrection d'entre les morts. Verset 56. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Donc, j'ai rien inventé. La puissance du péché, c'est la loi, vous avez compris. Dès qu'il y a une loi, on est tenté. Hein? La loi vous dit de ne pas faire ça. Moi, j'ai envie de faire ça. Immédiatement. C'est pour ça qu'on est malheureux sous la loi. Et je ne vais pas vous mettre sous la loi, même pour lire la parole. Vous devez avoir faim et soif. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne quelques victoires. La victoire. Apprenez à lire la Bible comme elle est. Et ne diminuez pas la force de l'écriture. Même si vous regardez à vous-même et que vous voyez que vous avez eu bien des défaites. C'est pas parce que vous avez eu bien des défaites que vous n'aurez pas la victoire. Comme l'a dit quelqu'un, on peut bien faire beaucoup de batailles, mais pas la guerre, hein. Alors, tout le monde dit ça, hein. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Mais par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est toujours question d'être avec le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez timides. Non, fermes, inébranlables. Est-ce que nous sommes ébranlés par les circonstances? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà donc un texte que vous ajoutez aux Thessaloniciens et qui vous donne un enseignement très précis sur un enlèvement qui va se produire. Mais comment ça va se passer? Voilà que je vous ici, Philippiens, chapitre 3. Qu'est-ce que nous attendons, nous autres? Selon l'Écriture, verset 17, Philippiens 3. Soyez mes imitateurs, frères. Qu'est-ce qui était l'imitateur de Paul? Les Thessaloniciens. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon les mauvais modèles. Hein? Une drôle de version. Selon le modèle que vous avez chez les autres en nous. Donc, vous voyez que la vie chrétienne, c'est une vie conséquente. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Hein? Ils marchent, ils font profession d'être chrétiens. Il y a une certaine marche. Hein? Il y a beaucoup de marches dans ce monde aujourd'hui. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Il y a des choses qui réjouissaient Paul, certaines épreuves, mais il y a d'autres choses qui le faisaient pleurer. Et leur fin, c'est quoi à ces gens qui marchent de cette façon? Mais pas, c'est grave. Leur fin, c'est la perte. Ils ont perdu leur salut? Non. Ils ont marché, mais ils n'étaient pas vraiment des chrétiens. Ils ont professé. C'est la profession chrétienne sans la vie réelle. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il suffit de se souvenir des conversations qu'on entend dans les voyages. On nous parle de ce qu'on a mangé. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est toujours ce qui est entré dans la pensée qui compte. Ils ont pour Dieu leur ventre. Alors, de ça, ils osent parler. De Dieu, non, on ne parle pas. Mais du ventre, oui, alors, ça, on peut en parler. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Quand ils nous disent qu'ils ont eu 44 maîtresses, c'est une gloire. Et je pense qu'on peut faire tout de suite quelques divisions. Parce que l'incrédule, c'est un menteur. Il se glorifie de ce qui devrait être sa honte. Ça, je l'ai vu au service militaire. Mais oui, c'est vrai, là. Chacun racontait son histoire, et plus c'était scabreux, plus ça avait succès. Je ne dis pas pour moi. Mais on ne pouvait être que triste dans ce milieu-là. Comprenez-vous? Je me sentais un étranger. Et pourtant, on m'a demandé de faire le culte militaire. Ça valait la peine que j'endure un petit peu des coussins qu'on m'envoyait à vers la paille, là. Après, ce sont les catholiques qui ont demandé au capitaine que ce soit Racine qui fasse le culte militaire en public à Lévin dans la grande ville des malades. Et tout le monde était là. Et vous savez, en face des Dents du Midi, vous connaissez le tableau des Dents du Midi, hein. Eh bien, c'était quelque chose qui existe, mais c'est quelque chose dont je me souviendrai toujours. Où on a eu une grande délivrance puisque les Allemands, ont réussi à passer par la ligne Maginot. La Belgique, oui, la cité est épargnée. Eh bien, maintenant, encore en pleurant, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent, alors c'est cette troisième chose qui me fait plus peur, ils ne pensent qu'à quoi? Aux choses. Vous vous rendez-vous compte? On ne pense qu'aux choses terrestres. C'est d'abord les choses terrestres. Est-ce que les choses célestes? Pensez aux choses qui sont en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Quand les choses terrestres commencent à prendre trop de place, nous sommes en danger. Alors, contraste, versets 20 et 21, mais nous, nous sommes concitoyens des cieux. Donc, où est notre maison? C'est la maison du Père. D'où nous attendons qui, aussi comme sauveur, le Seigneur, j'ai dit, mais il est déjà venu comme sauveur, comment vous attendez encore le sauveur? Mais le sauveur nous a acquis aussi la rédemption de notre corps. On a la rédemption de notre âme, de notre esprit, mais on n'a pas encore la rédemption de notre corps. Alors, c'est quelque chose de total que le Seigneur a accompli. Il transformera le corps de notre humiliation. Et combien souvent on est humilié avec notre corps, hein, en le rendant semblable au corps de sa gloire. Vous voyez qu'on retrouve le mot gloire. Pourquoi? Parce que nous devons paraître avec lui en gloire. Alors, pour paraître avec lui en gloire, il faut qu'on soit comme lui. Et il le rendra semblable au corps de sa gloire. Par quel pouvoir? Le pouvoir qu'il a de s'assujettir même toute chose. Est-ce qu'il y arrivera? Absolument. Et alors, où va-t-il nous conduire? Nous en parlerons demain. On va rester dans les airs, là? Dans la maison du Père. Nous aurons l'occasion de visiter d'abord ces aimables demeures dont parle le psaume 81. Et puis, pour que vous ayez bien la certitude que c'est bienheureuse espérance, est-ce que c'est une espérance, hein, de ne pas passer par la mort? Vous vous rendez compte? Ne pas aller au cimetière? Ni même avant d'aller au cimetière, on va où? Au salon funéraire. Vous montrez notre beauté. Non. Pas de salon funéraire. Pas de cimetière. On sera dans la maison du Père. Et là, je vous dirai un petit peu. Non pas parce que je suis allé, mais ce que la Bible nous dit de ce que nous ferons dans la maison du Père, où nous serons avec le Seigneur. En un instant, nous serons rendus semblables, nous serons comme il est. Chapitre 3 de la première épître de Jean. En un instant, nous serons rendus semblables, nous verrons comme il est. Alors, je prends dans Zacharie, pour bien vous montrer que l'enlèvement n'est pas l'apparition du Seigneur. Et que l'enlèvement n'est pas nécessairement vu par le monde. Parce que si vous prenez Apocalypse, c'est ce qu'on nous dit toujours, hein, on nous flanconnait l'Apocalypse au chapitre 1er. Vous connaissez le chapitre 1er de l'Apocalypse? Verset 7, qu'est-ce qu'on lit? Voici, il vient sur les nuées. Bien sûr, les nuées, il a dit qu'il reviendrait comme on l'avait vu partir, il viendra sur les nuées. Et tout œil le verra. Alors on dit, mais tout œil le verra, donc ça sera visible partout. Même ceux qui l'ont percé. Qui c'est qui l'a percé? Les Romains, si on veut. Mais enfin, c'est le peuple juif. Hein. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est une bienheureuse espérance. vous allez au-devant d'une lamentation de toutes les tribus de la terre. Pourquoi est-ce qu'on se lamentera à cause de lui? Parce qu'on n'a pas cru en lui. Et qu'on aura vu qu'on s'est trompé. Et la preuve, prenez dans Zacharie. Je me souviens, j'étais chez un architecte juif à Haïfa un soir, puis on parlait de ces choses. Et il était allé chercher sa Bible. Il avait aussi une Bible. C'était un juif, très pratiquant, mais il avait aussi sa Bible dans sa bibliothèque. Et alors, au chapitre 14 de Zacharie, c'est avec ça qu'on va terminer, quand le Seigneur reviendra sur la terre, dans le deuxième acte de sa venue, parce qu'il vient d'abord pour les siens, puis après il revient avec les siens. Il est au verset 4 du chapitre 14, ses pieds où l'Éternel paraîtra et il combattra les nations qui entoureront Jérusalem, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront où? Sur la montagne des Oliviers. Et c'est bien là qu'il est parti, hein. Qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Comme il y a eu la mer, autrefois, qui s'est fendue. Il se fera un passage à travers la montagne des Oliviers pour que les Juifs puissent fuir. Il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, on a toujours affaire avec le même Dieu qui fend la mer, puis ensuite qui fend la terre, et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de montagne. Est-ce que c'est pour l'Église, ça? Non. Car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Athel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et c'est assez intéressant, on sait par les archéologues et les historiens, il y a eu un tremblement de terre au temps d'Ozias et la moitié de la montagne des Oliviers est déjà en partie pendue. Il n'y a plus de terre à faire. Un bon coup. Et puis, il y aura la grande vallée. On approche, mes amis. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra en ce jour-là, viendra, et tous ses saints avec lui. Donc, il y a un retour pour les siens, et il y a un retour avec les siens. Est-ce que j'invente? Ou bien est-ce que vous avez cela dans vos bibles? Mais il faut le savoir, puis il faut y croire. Il revient avec les saints, avec lui. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce ne sera ni jour, ni nuit, mais le soir, la lumière paraît. Ce sera la grande délivrance. Et alors, pour bien vous montrer, alors ça c'est le dernier verset, que je vous cite dans le titre, puisque vous l'avez lu, je crois. Alors, il faut que je m'y tienne. Épître à Tite, ça vient avant Timothée ou après Timothée? Après Timothée, je vois que vous progressez. Hein. Verset 11 du chapitre 2. La grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait, la grâce de Dieu? Vous êtes sauvés par quoi? Par la grâce. Hein. La grâce de Dieu. Source de salut pour tous les hommes. Donc, tous les hommes pourraient être sauvés par la grâce s'ils acceptaient la grâce. Elle a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme honnête. On n'est plus sous la loi, on est sous la grâce. Et c'est la grâce qui nous enseigne. C'est ça qui est merveilleux. C'est plus du tu ne dois pas. C'est la grâce. On éprouve ce que Dieu éprouve. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est exclure Dieu de sa vie. Mais la plupart des gens, ils excluent Dieu de leur vie. Ils essayent tous les moyens pour s'en sortir. Puis quand ça ne va plus, alors on fait revenir Dieu. Mais à la fin, on a perdu tout notre temps. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La piété, c'est la relation avec Dieu, c'est avoir une relation continuelle avec Dieu, c'est ça la piété. L'impiété, c'est une marche sans frein et sans loi, comme l'unicité. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et qu'est-ce qui nous enseigne ça? Une loi rigide? Non. C'est la grâce. Et elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent. Comment? Selon la sagesse, pour nous-mêmes, ne mangez pas trop. Parce qu'on en meurt, hein, de trop manger. Il nous a donné une sagesse. Ne violons pas les lois naturelles, nous avons des lois naturelles que nous violons. Selon la justice, c'est la grâce qui nous enseigne comment nous devons vivre avec les autres. Pour nous-mêmes, sagement. Pour les autres, vivre dans la justice. Et vis-à-vis de Dieu, comment est-ce que nous devons vivre? Dans la justice. Être en relation avec Dieu. Il y a les trois choses. Rappelez-vous cela, c'est facile. En attendant, quoi? La bienheureuse espérance. Et qu'est-ce que c'est la bienheureuse espérance? Qu'est-ce que c'est l'espérance? C'est Jésus. Mais alors, justement, il y en a qui veulent mettre la bienheureuse espérance en même temps que la manifestation et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Comme si les deux choses se passaient ensemble. Comprenez-vous? Alors, c'est là que ça devient faux. La bienheureuse espérance, c'est Jésus qui vient pour prendre les tiens. Parce que sans ça, l'Église ne serait pas là. Comprenez-vous? C'est complètement idiot et stupide ce qu'on entend dire. Vous nous dites que nous ne passerons pas par la grande tribulation, l'Église, elle doit passer par des épreuves, etc. Mais qu'est-ce que l'Église? Votre petit groupe? Nos petits groupes à nous tous? L'Église, elle a commencé avec les apôtres. Et c'est l'Église tout entière qui doit paraître quand Jésus viendra, parce qu'on ne sera pas là. Les morts en Christ, ils doivent ressusciter. Ils doivent ressusciter depuis Abraham et compagnie. Hein. Tous ceux qui sont morts dans l'espérance que la promesse concernant le Rédempteur s'accomplirait. Ils ont mis leur confiance dans la promesse qui allait s'accomplir. Ils sont morts. Mais ils sont sauvés par quoi? Par la foi qu'ils ont eue en celui qui devait venir. Nous, qui sommes nés après la mort de Jésus, nous sommes sauvés par la foi en celui qui est venu. Comprenez-vous? Il n'y a qu'un moyen d'être sauvé. La foi qui espérait en Christ est la foi maintenant qui croit en Christ, qui est venu et qui reviendra. En attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Mais quand est-ce que sa gloire sera manifestée? C'est quand il revient alors avec les siens sur la terre, avec tous les saints, comme il l'est dit dans Zacharie, c'est pas moi qui l'invente, hein, dans l'Ancien Testament, dans Zacharie, au chapitre 14, il est dit qu'il revient avec les... Et alors, ce sera la grande réunion où tous seront remis en Christ. C'est la volonté de Dieu de tout remettre en Christ. Vous avez cela dans Éphésiens, au chapitre 1er. Est-ce que j'avais des... Je m'excuse, j'étais trop long. Hein? J'essayais de vous faire comprendre. Gloire sera manifestée. Colossiens, je vous le dis encore, hein, même si ce n'est pas enregistré. Colossiens, chapitre 3. Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut. Ne courez pas sur la terre pour trouver le Seigneur. Où le Christ est assis, ou à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, et non pas à faire des grandes manifestations pour Jésus dans les rues, etc. C'est très facile de faire ça, si on dit qu'on a évangélisé. Ils sont complètement aveuglés. On est Laodicée, mes amis. On a besoin d'un collier loin de nos yeux. On est pauvre. On ne demande que de l'argent partout. On est pauvre. On est aveugle. On ne voit pas loin. Puis on est encore nu. Voilà. C'est la Odyssée. Tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. Et tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. On se sort tout seul. Je n'ai besoin de rien. Alors que Jésus disait, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est parce qu'on n'a pas Jésus. Et c'est à Jésus que vous devez revenir. Est-ce que je vous amène à autre chose qu'à une personne qui a Jésus ici? Tant pis. Il faut qu'on le sache, hein. Parce que moi, j'ai encore un jour de grâce. Pour répondre. Pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous voyez que c'est ça, hein? Pour réaliser la mort, vous êtes morts, croyez-le. Vous croyez que vous êtes morts. C'est pas une question de sentir un mort, il ne sent plus rien. Si vous attendez de sentir que vous êtes morts, vous attendrez toute votre vie. Vous piquerez une dernière colère. Vous êtes mort. C'est par la foi qu'on croit qu'on est mort. Je dis à Dieu, tu as dit que j'étais mort, alors arrange-toi. Il faut oser aller à Dieu, hein. Vous êtes mort. Et votre vie, elle est cachée où, la vraie vie? En Jésus, en Dieu. Faites pas si merveilleux quand même, franchement, la parole. Quand Christ, qui est notre vie, sera manifesté, hein, c'est moi qui l'invente, quand Jésus sera manifesté, alors vous aussi, vous serez manifestés en gloire. Donc, nous ne serons glorifiés qu'au retour en gloire de Jésus. On ne sera pas glorifiés au moment de l'enlèvement. On aura des corps glorieux, oui, mais la plénitude, nous l'aurons quand nous serons avec le Seigneur qui reviendra avec nous. Il vient avec nous pour nous prendre, il vient d'abord pour nous prendre, puis ensuite il revient avec nous. Et deux actes de son retour. Donc si vous voulez croire autrement, vous pouvez les croire, si ça vous rend heureux. Et si ça vous rend heureux, que ça soit le plus loin possible.
Eh bien, chers amis, je bénis Dieu de ce que cette journée soit encore si belle. On m'avait dit, oh, vous risquez bien de repartir avec de la neige, mais dans le conseil de Dieu, il n'en était point ainsi. Et J'espère que vous avez eu une nuit aussi bonne que la mienne. J'avais demandé au Seigneur de me réveiller à 4h30. Il m'a laissé dormir jusqu'à 5h30. Alors, il est d'une bonté merveilleuse. Et des fois, on aimerait se réveiller encore plus tôt parce qu'il y a tant de choses qui vont se passer dans la journée. Et je n'avais pas du tout, en m'endormant, le texte, le mot d'ordre que je voulais mettre ce matin, et qui est le mot d'ordre du Seigneur, comme j'aime à vous donner seulement ce que le Seigneur vous donne. Et alors, quand il m'a réveillé, j'étais souvenu de la femme de Lot. C'est pourquoi. Bien, vous savez, cette histoire que le Seigneur nous rappelle, nous montre qu'il croyait à la Genèse, hein, qu'il croyait aux écrits de Moïse. Souvenez-vous de la femme de Lot. Ça nous rappelle une prière. Quelle prière? Une merveilleuse intercession d'un homme pour son neveu qui a choisi pour lui la meilleure partie du pays et qui a laissé le pauvre tout seul dans la montagne. C'était qui? Abraham. Et quand Abraham a su que Dieu était descendu pour voir ce qui se passait à Sodome, parce que le cri de Sodome était monté jusqu'à l'Éternel, comme si l'Éternel devait encore descendre pour voir s'il était vraiment comme cela, l'Éternel est descendu. Voyez les points de Dieu. Il est descendu. Ça me bouleverse de nous. Nous, on fait les choses tout promptement, on entend quelque chose, on le raconte, etc. Et Dieu dit à Abraham, si je suis descendu, au fond, c'est pas seulement pour dîner avec toi, c'est parce que nous allons à Sodome. Et puis, il lui dit, mais je vais pas te cacher. Je ne vais pas te cacher ce que je vais faire. Alors, nous lisons dans l'Écriture, pour situer cette histoire de la femme de Lot, dans le livre de la Genèse. Donc, les visiteurs célestes, qui étaient combien? Trois, qui nous parlent aussi de la Trinité, sont venus auprès d'Abraham. Et, à un moment donné, après le repas, où l'argent, ils se sont quittés. Les hommes restés, 16 du chapitre 18 de la Genèse. Les hommes se levèrent de là, bon, du lieu où ils avaient dîné chez Abraham, à Mamré. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Et Abraham allait avec eux pour leur faire la conduite. C'est pas si merveilleux. Un homme dit de la conduite. Pour diriger Dieu. Voilà. Il s'est fait homme. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisqu'Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je le connais. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Car je le connais, c'est beau. Il nous connaît. Je le connais. Et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Donc, tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. C'est le message de Jérémie. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et l'Éternel dit, parce que le cri de Sodome et de Gomorrhe est grand, et que leur péché est aggravé, eh bien je descendrai, je verrai qu'ils ont fait entièrement selon le Christ qui en est venu jusqu'à moi, et sinon je le saurai. Et comme je dis que vous avez dans votre main un petit dictionnaire, vous vous dites que c'était ce péché, qui est abominable, qui est monté jusqu'à Dieu. Eh bien, il faut que vous alliez dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, pour savoir ce que c'était ce péché de Sodome. Ce n'est pas simplement l'homosexualité, comme on le dit constamment, et c'est vrai, mais comment était-il arrivé là? Chapitre 16 de l'Ézéchiel. Verset 49 en effet. Voici ce qu'était l'initié de sa sœur Sodome. Orgueil, abondance de pain, insouciant repos, qu'on a appelé la Dolce Vita. Elle les a possédés, elle et ses filles. Elle a eu un temps de bénédiction. C'était une ville fidèle que quand Abraham a dû se séparer de Lot, il lui a dit choisis. Choisis où tu veux aller. Alors évidemment, Lot, le plus jeune, son neveu, a levé les yeux, puis il a vu ces plaines de Sodome qui ne sont plus revenues maintenant. Eh bien, elle était aussi belle que le jardin des hommes. Alors il a choisi pour lui. Quand on lève nous-mêmes les yeux et qu'on choisit pour nous, on se trompe. Tandis que Abraham l'a laissé choisir. Puis quand Lot a eu choisi, eh bien, il a pris Abraham sur la montagne, il a dit regarde le ciel, compte les étoiles, regarde le sable du désert. Est-ce que tu peux le compter? Eh bien, ta postérité sera semblable aux étoiles du ciel et au sable de la mer. C'est provient. Mais vous voyez comment ça a commencé. L'iniquité de ta sœur Sodome, orgueil, abondance de pain, ainsi de repos, elle les a possédés, elle et ses filles. Mais elle n'a pas fortifié la main de l'affligé et du pauvre. Vous voyez que ça nous rappelle des lectures d'hier soir, ça, n'est-ce pas? J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Elles ne se sont pas soucies de l'affligé du pauvre. Elles se sont élevées. Elles ont commis des abominations devant moi. Comment est-ce qu'on arrive aux abominations? C'est pas tout de suite l'homosexualité. Il y a tout un chemin qui amène le monde à ses péchés. Ils sont tout à fait contre la nature. Et alors je les ai ôtés devant moi. Et comme le Seigneur a répondu à ses disciples à une question concernant son retour, puisque nous sommes toujours dans le même sujet, nous lisons dans le chapitre dans Luc, au chapitre 17e. Cette parole qui est bien significative. Verset 1. Les pharisiens, qui ont toujours été préoccupés de cela,
demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Vous voyez, on voudrait toujours savoir, mais quand cela va se passer. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici. Ça confirme ce qu'on a déjà lu. Où il est là, car le royaume de Dieu est au milieu de nous. Alors on a interprété ça comme ça, mais il est là le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Le royaume de Dieu, c'était qui? C'était lui. Alors, il était au milieu d'eux, et ils ne reconnaissaient pas le royaume de Dieu, il était là. Il est au milieu de vous, ça ne veut pas dire qu'il est déjà venu et qu'il ne reviendra pas. Mais il était au milieu de nous et il ne savait pas reconnaître que le roi était là. Verset 22. Et dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair, vous voyez que vous pouvez prendre une partie de la Bible ou une autre, c'est toujours dans une communion parfaite que ces textes sont donnés. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son lumière. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Il leur annonce une fois encore, peu avant son arrestation, qu'il sera rejeté, ce Pierre ne pouvait pas venir. Ce qui arrivera, qui arrive à du temps de Noé, arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Alors, il nous donne l'époque de son retour. Quel environnement nous vivrons? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, avaient des enfants. Il semble que tout allait bien, hein? Mais qu'est-ce que vous lisez dans la Genèse aujourd'hui? Les gens étaient méchants. L'injustice et le meurtre étaient la guerre. Eh bien, mais on se mariait, on buvait, la vie continuait. Dans cet état de choses. Et puis, le déluge vint, et les fit tisser. Ce qui arriva du temps de Lot, alors il prend un autre tour, pour nous montrer l'époque qui sera proche, très proche, de son retour et de sa délivrance. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, mangeaient, demandaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où le sortit Sodome, et comment a-t-il pu sortir Sodome? On l'a tiré. On se demande si les chrétiens sont prêts à partir ou bien si on doit vraiment les tirer. Et parce qu'on doit les tirer pour qu'ils passent par toutes sortes d'épreuves pour qu'ils en aient marre d'être sur cette terre et qui ne pense plus qu'aux choses terrestres. Non, il faut que des temps difficiles arrivent pour produire ce détachement de la terre parce qu'on n'aime pas l'entendre nous dire « Mon disciple, on ne veut pas déloger sans mourir même. On ne veut pas quitter cette terre. On s'est attaché à toutes ces choses du monde. » Et alors, le Seigneur nous avertit très clairement. Nous sommes au verset 28. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, et vous savez comment les anges ont dû les prendre par la main pour les sortir avec les fils. Une pluie de feu et de tout tomba du ciel, elle les fit toutes périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra
en ce jour-là, celui qui sera sur les toits et qui aura des effets dans la maison, ne descend pas pour les prendre, vous voyez qu'il a averti plusieurs fois, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Et il ajoute, souvenez-vous de la femme de l'homme. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle s'est retournée. Pour quelle raison? Elle a regardé en arrière. Parce qu'elle aurait voulu prendre certaines affaires. Je me souviendrai toujours, et il y a quelques années, là, ils s'en souviennent de la petite fille, quand j'avais raconté ça aux enfants, dans un camp, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle attendait, la femme de l'homme? Elle attendait un trailer. La vérité semble qu'elle a fait 6 ans, cette enfant. La vérité semble qu'elle a fait 6 ans. Elle attendait un trailer. Elle ne voulait pas partir sans rien. Quand vous voyagez souvent en avion, on vous dit bien, n'est-ce pas, s'il y a une catastrophe, vous laissez tout, vous ne prenez rien avec vous. Vous enlevez même vos yeux. Alors, eh bien oui, il faut savoir être détaché. Eh bien, que le Seigneur nous garde et nous bénisse dans cette belle journée et que nous puissions nous souvenir que le Seigneur voudrait que nous soyons détachés des choses de la terre. Parce que ce qui vient sur la terre, c'est le malheur. C'est moi qui le dis. C'est le jugement. Parce qu'on est dans des temps comme ceux de Lot et comme ceux de Noé. Ce sont quand même là des signes, mais qui sont parlants. Et le Seigneur nous dit bien, en quelques mots, et c'est pour ça que j'ai été poussé à m'expliquer quelques mots. Souvenez-vous de la femme. C'est pas long, hein. Mais il y a tout un récit. Et puis, alors, la fin du chapitre 4, enfin, le commencement du chapitre 4 de l'Apocalypse, que nous allons voir encore. Voici, dit le Seigneur, après nous avoir raconté toute l'histoire de l'Église. Je vis, et voici, une porte ouverte. Tout à coup, il voit une porte ouverte dans le ciel. Il entend la première voix qu'il avait oui déjà, qui lui dit « Monte ici !» Eh bien, je souhaite que nous puissions bien se monter ensemble. Que le Seigneur nous garde Jésus et que cette journée soit comme le sceau de ta bénédiction sur tout ce qui se dira, sur tout ce qui se fera, et bénis ce repas que nous prenons encore avec reconnaissance, encore avec multitude, qui souffre encore de la fin, bénis des gens pleins de reconnaissance, et donne-nous d'être délivrés de l'esprit de Sodome et de Gomorrhe, de l'esprit du temps du monde, pour nous attacher à des choses qui sont en haut, en attendant ta gloire. Amen. Amen.